Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Une dizaine de journalistes arrêtés en Algérie. Le pouvoir semble vouloir intimider les médias qui couvrent le mouvement de protestation dans le pays. Les explications de Nathanaël Charbonnier dans un instant. Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un a échoué. Le président américain refuse de lever les sanctions contre le régime nord-coréen. La déception est immense en Corée du Sud où nous retrouverons Frédéric Ojardias. Le dossier de ce journal consacré à l'inquiétude des constructeurs automobiles allemands. Les États-Unis de Trump menace de taxer les véhicules européens et l'Allemagne est la première concernée. Un dossier préparé par Ludovic Piétenu. Pour une autre PAC, un collectif réclame à Bruxelles une autre politique agricole commune tournée vers l'agroécologie. Le reportage d'Anne Lorchouin. Le Conseil d'État valide la circulaire d'Édouard Philippe qui interdit l'écriture inclusive dans les textes officiels. Au même moment, l'Académie française réfléchit à la féminisation des noms de métiers. Nous verrons tout cela avec Fiona Mogadam. Mais on va commencer ce journal par ce coup de théâtre en Israël. Le procureur général israélien va engager des poursuites contre le premier ministre Benjamin Netanyahou dans 3 affaires de corruption. Étienne Monin, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Jérusalem, Étienne, ces poursuites vont bien sûr fragiliser Benjamin Netanyahou à 6 semaines des élections législatives en Israël le 9 avril prochain.
C'est en tout cas le véritable coup d'envoi de cette campagne électorale. On est donc à 40 jours du scrutin. Le Premier ministre était déjà inquiété par la formation d'une coalition de centre-gauche à forte tonalité de droite. Il est maintenant menacé par l'effet de ces poursuites judiciaires. Le Premier ministre risque des poursuites dans 3 dossiers. Dans le premier, il est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux de luxe. Dans le deuxième, il est accusé d'avoir essayé de s'arranger avec un grand patron de presse pour polir son image. Et dans le troisième, il risque des poursuites pour corruption, soupçonné d'avoir utilisé sa position pour favoriser un ami patron d'un grand groupe de communication. Le Premier ministre va maintenant essayer d'éviter la mise en examen. La procédure prévoit une audience en défense. Elle pourrait avoir lieu d'ici quelques mois. Il devrait aussi renforcer son argumentaire qui vise les élites de gauche qu'il accuse de tirer les ficelles dans cette affaire. Son parti, le Likoud, parle aujourd'hui de persécution politique. Les premières figures de l'opposition appellent à la démission. Techniquement, le Premier ministre peut rester en place tant qu'il n'est pas définitivement condamné.
Étienne Monin, correspondant à Jérusalem, merci. Le gouvernement algérien a-t-il choisi la voie de la répression pour étouffer les manifestations contre le 5e mandat du président Bouteflika ? Signe inquiétant aujourd'hui, l'arrestation d'une dizaine de journalistes à Alger. Ils participaient à un rassemblement d'une centaine de journalistes algériens contre la censure. Tous dénoncent les pressions du pouvoir pour limiter la couverture des manifestations anti-Bouteflika. Je vous propose d'écouter le témoignage de Faisal Metaoui, journaliste à TSA, tout sur l'Algérie. Il était présent à la manifestation ce matin.
Dès le début, l'endroit a été quadrillé par les forces anti-émeutes. Ils sont venus au nombre. Ils ont empêché nos confrères, ceux qui sont arrivés en premier, d'arriver vers cette placette. Mais une demi-heure après, il y a eu des centaines ou 200 journalistes qui sont venus. Il y a des journalistes, des photographes, des caméramans, et qui ont occupé l'espace pendant plus de 2 heures. À chaque fois, la police a tenté de disperser les manifestants. C'est vrai qu'ils n'ont pas utilisé la manière forte, pas de matraque ni de gaz lacrymogène, mais ils n'ont pas laissé les journalistes se rassembler. Malgré cela, les journalistes ont montré des pancartes, ils ont crié, ils ont dénoncé la censure, ils ont dit que le peuple veut une presse libre. Et on a remarqué aussi la forte présence des journalistes de la télévision et de la radio publique qui ont déjà organisé des sit-ins cette semaine.
Faisal Metaoui, journaliste pour le site TSA, Nathanaël Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Ces arrestations de journalistes ressemblent à une mise en garde du pouvoir aux médias algériens qui couvrent les manifestations anti-Bouteflika.
Oui, l'important dans les arrestations de ce jeudi, c'est avant tout de faire passer le message, message que souhaite passer le pouvoir algérien, message à destination des journalistes qui travaillent en Algérie, qui savent qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils écrivent et aux manifestations qu'ils décident de couvrir. On peut appeler ça de l'intimidation, d'autant que la manifestation de ce jeudi avait pour mot d'ordre pour une presse libre. Il faut savoir que les médias d'État, radio et télévision, ont mis plusieurs jours avant d'évoquer les manifestations qui se sont déroulées dans le pays. Message à destination des journalistes qui travaillent en Algérie, on l'a dit, et ce à la veille d'une grosse manifestation qui doit avoir lieu demain. Mes messages aussi à destination des journalistes étrangers. De toute façon, pour travailler en Algérie, quand vous êtes journaliste, vous avez besoin d'un visa professionnel. Or, ces visas sont donnés au compte-gouttes. Difficile d'en obtenir, cela prend du temps, et quand vous en obtenez un, eh bien, vous arrivez souvent après les événements que vous auriez aimé relater. Heureusement, il reste quand même une solution pour s'informer, les réseaux sociaux. Ce sont avec eux que communiquent les Algériens qui s'opposent à une cinquième candidature du président Bouteflika.
Nathanaël Charbonnier, merci. Au Sénégal aussi, l'élection présidentielle fait polémique. Selon les résultats provisoires publiés cet après-midi, le président sortant Macky Sall a été réélu dès le premier tour avec plus de 58% des voix. Les quatre candidats d'opposition réclamaient un deuxième tour et ce soir, ils rejettent ces résultats, mais sans pour autant introduire de recours. Le sommet Donald Trump-Kim Jong-un s'est donc soldé par un échec à Hanoï au Vietnam. Le président américain a refusé de lever les sanctions qui frappent la Corée du Nord, comme le réclamait le dictateur nord-coréen. Selon Donald Trump, Kim Jong-un se serait toutefois engagé à ne pas reprendre ses essais nucléaires. Alors cet échec a fait l'effet d'une douche froide en Corée du Sud. À Séoul, on espérait un compromis pour améliorer les relations avec le voisin du Nord. La correspondance de Frédéric Ojardias.
L'échec de Hanoï est une très mauvaise nouvelle pour Séoul. Le monde entier s'attendait à un accord et nous aussi, a déclaré un représentant du gouvernement. Le principal indice de la bourse sud-coréenne a chuté de 1,8%. Le président Moon Jae-in affichait pourtant son optimisme avant le sommet. Il avait besoin de cet accord et d'un allègement des sanctions, ce qui lui aurait permis de poursuivre enfin sa stratégie d'échanges économiques avec le Nord. Séoul veut en effet intégrer la Corée du Nord dans l'économie de la région pour développer des leviers sur le régime et l'encourager à s'ouvrir. L'échec de Hanoï et le maintien des sanctions marquent un coup d'arrêt dans cette stratégie. Moon Jae-in va devoir trouver un moyen de maintenir l'élan du rapprochement avec Pyongyang sans fâcher son allié américain. Ce revers vietnamien s'explique peut-être par l'influence des faucons dans l'entourage de Kim Jong-un. Ses partisans d'une ligne dure sont représentés par l'intraitable général Kim Yong-chol, présent à Hanoï. Leur réticence à faire trop de concessions nucléaires pourrait avoir conduit au blocage. La présidence sud-coréenne veut quand même y croire et elle affirme que Donald Trump et Kim Jong-un sont parvenus, je cite, aux avancées les plus significatives jamais obtenues. Le processus de dialogue continue.
Frédéric Ojardias, correspondant de RFI en Corée du Sud. À Bruxelles, le procès de Mehdi Nemmouche est entré dans sa dernière ligne droite. Le djihadiste est jugé pour la tuerie du musée juif de Belgique en 2014. Il nie en bloc l'attaque malgré les charges qui pèsent contre lui. Et depuis ce matin, ses avocats plaident de son innocence en invoquant un mystérieux complot dans lequel seraient impliqués des agents du Mossad israélien. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Maret.
À défaut de révélations promises pour faire basculer le procès, Maître Courtois tente de semer le doute chez les jurés. Il déroule sa version parallèle sur ce qu'il s'est passé le 24 mai 2014, qu'il argumente avec ce qu'il qualifie de troublante coïncidence. Non, ce 24 mai, il n'y a eu ni attentat contre la Belgique, ni attentat antisémite. La preuve, dans sa revendication vidéo, le tueur ne mentionne pas le caractère antisémite de son acte. Pour l'avocat, ce sont des personnes bien précises qui ont été visées lors de cette tuerie. Les époux Riva, qui ont été présentés comme de simples touristes israéliens, étaient en fait membres du Mossad. L'avocat ressort un PV d'un commissaire de Bruxelles qui explique « L'identité des victimes ne peut être communiquée à nos services ». La conspiration saute aux yeux de l'avocat. On a d'abord voulu cacher l'identité du couple Riva avant de cacher leurs fonctions. Dans cette plaidoirie complotiste, on accorde aussi beaucoup d'importance à ce témoin qui affirme que deux hommes sont entrés dans un commerce en face du musée quelques minutes avant l'attentat. Ils avaient un accent étranger et ont posé des questions bizarres. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il s'agit pour l'avocat de guetteurs, des guetteurs qui ont donné le signal pour que le tueur surgisse et exécute. Et pour Maître Courtois, ce tueur ne peut pas être Mehdi Nemmouche. La preuve, mon client s'est fait serrer comme une merde après avoir tenté de braquer une épicerie de quartier. Et après, on me dit que c'est le même type qui arrive à mener une exécution puis disparaître dans les rues de Bruxelles.
Antoine Maret, envoyé spécial de France Culture à Bruxelles. Le verdict dans le procès Nemmouche est attendu le 7 mars prochain. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir en Allemagne où les constructeurs automobiles redoutent une guerre commerciale avec les États-Unis. Donald Trump envisage de rétablir des barrières douanières entre l'Europe et l'Amérique. Les voitures made in Germany pourraient être taxées à 25%, de quoi faire trembler la puissante industrie automobile allemande. Le reportage à Berlin de Ludovic Piétenu.
Une des fiertés en Allemagne, ces voitures, ces marques très célèbres partout dans le monde qui sont très inquiètes en ce moment. Et elles sont représentées par une fédération, bien sûr la Fédération de l'industrie automobile, le Verband der Automobilindustrie. On est en plein cœur de Berlin, devant leur bureau, tout près de Unter den Linden. On a rendez-vous avec son responsable de la communication, Eckhard Rotter.
Bien sûr, nous nous faisons du souci. Nous exportons vers les États-Unis 1,5 million de voitures. Aux États-Unis, nous y construisons 750 000 véhicules, soit l'an dernier 1 340 000 voitures vendues sur le sol américain.
Le président américain Donald Trump a 3 mois, 90 jours pour décider de créer des droits de douane. L'administration américaine évoque un taux de 25%, soit une chute de moitié des exportations automobiles allemandes, 5 milliards d'euros de pertes pour les constructeurs. À la mi-février, la chancelière allemande Angela Merkel prend connaissance d'un rapport américain remis au président Trump. Il y est écrit que les importations de voitures menaceraient la sécurité nationale des États-Unis. Merkel hausse le ton devant une importante délégation américaine et Ivanka Trump, la fille du président américain, tous réunis à Munich.
Regardez, nous sommes fiers de nos voitures. On peut l'être, et ces voitures sont construites aux États-Unis d'Amérique. En Caroline du Sud, il y a la plus grande usine BMW. Elle n'est pas en Bavière, elle est en Caroline du Sud. Et ensuite, ces voitures sont exportées vers la Chine. Mais tout à coup, parler d'une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, ça nous fait peur.
La salle est debout, comme pour marquer le soutien de tout un pays à une industrie essentielle. En Allemagne, on ne rigole pas avec l'automobile. Le professeur Ferdinand Dudenhofer de l'université de Duisburg-Essen.
Je suis presque sûr que les Américains vont mettre leur menace à exécution. Parce que l'objectif de Donald Trump est au fond d'obtenir de meilleures conditions pour ses produits agricoles en Europe. Et donc, il met la pression sur l'Allemagne et sur les constructeurs automobiles allemands pour que Berlin aille se plaindre à Bruxelles et obtiennent que Paris assouplisse les restrictions imposées aux produits agricoles américains.
Selon ce spécialiste, l'année qui vient sera très dure pour l'industrie automobile allemande. Le secteur est déjà sous pression depuis le scandale du Dieselgate. Il y a l'incertitude du Brexit, les tensions commerciales mondiales. De l'aveu de ce professeur, les menaces de sanctions douanières par les États-Unis ne sont finalement qu'un petit problème à l'aune de tous les autres.
L'industrie automobile allemande face à la menace des taxes douanières américaines, un dossier préparé par Ludovic Piétenu, notre correspondant à Berlin. On reste dans l'actualité économique avec les enjeux de la PAC, la politique agricole commune. La PAC, c'est le premier budget européen qui représente des subventions indispensables pour les agriculteurs français. Les négociations pour 2020 ont lieu en ce moment, alors que se tient le salon de l'agriculture. On va s'intéresser ce soir au collectif pour une autre PAC, un collectif qui veut réorienter la politique agricole commune vers l'agroécologie. Il vient de lancer une campagne d'information intitulée Tablons sur nos paysans. C'est un reportage d'Anne Lorchois.
À travers une vidéo de plusieurs minutes, ce collectif pour une autre PAC résume à grands traits le fonctionnement de la PAC actuelle.
Alors déjà, qu'est-ce que la PAC ? C'est la politique agricole commune créée par l'Union européenne en 1962, juste après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on crevait franchement la dalle. Et autant à cette époque c'était une bonne chose parce qu'on encourageait la production agricole massive, autant aujourd'hui, plus t'as de terrain, plus on file de thunes, et quand t'as beaucoup de terrain, le plus simple c'est monoculture, pesticides...
50 milliards d'euros de budget, dont 9 pour la France, et peut-être bientôt 5 milliards d'euros en moins si le Brexit se concrétise. Au salon de l'agriculture, presque tous les politiques, et le président de la République en premier lieu, ont convenu qu'il fallait réorienter la PAC. Ces 35 associations, parmi lesquelles la Confédération Paysanne, la Ligue de Protection des Oiseaux, France Nature Environnement ou Greenpeace, appellent aussi bien les pouvoirs publics que les simples citoyens à se mobiliser pour une Europe agroécologique. Jacques Morino est paysan en polyculture élevage bio en Vendée, membre du réseau CIVAM, le Centre pour la valorisation du milieu rural. Cela fait plus de 30 ans qu'il s'est converti à l'agroécologie. Selon lui, le monde paysan est mûr aujourd'hui pour changer de système.
Une bonne partie des agriculteurs sont prêts à changer de façon de produire. Nos voisins viennent nous demander comment on fait parce qu'il y a des impasses techniques avec les produits phyto, avec tous les dégâts que les insecticides font en fait sur la faune auxiliaire. Donc il faut recréer de la mosaïque de paysages de façon à recréer la biodiversité et on arrive à des équilibres sur nos fermes, on le prouve, qui sont intéressants.
Les autorités françaises vont-elles pousser dans ce sens? Ce qui est sûr, c'est que se battre pour sauvegarder le budget actuel de la PAC ne semble plus être une priorité pour la France, qui préférerait réorienter ses milliards vers la défense et la sécurité. Un changement de braquet inédit qui inquiète beaucoup les députés français à Bruxelles.
Anne-Laure Chouin, merci. C'est une défaite pour les partisans de l'écriture inclusive. Le Conseil d'État a validé aujourd'hui une circulaire du Premier ministre du 21 décembre 2017. Édouard Philippe avait ordonné à l'administration de ne pas utiliser l'écriture inclusive dans les textes publiés au journal officiel. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Une circulaire contestée par une association mobilisée sur les questions de genre. Le Conseil d'État a donc rejeté son recours.
Et pour motiver sa décision, le Conseil d'État explique que la circulaire ne fait que demander aux administrations de respecter les règles de grammaire et de syntaxe en vigueur. Un texte qui n'est pas contraignant, selon le Conseil d'État. Il n'a pas vocation à encadrer la pratique de la langue française et il ne porte donc pas atteinte à l'égalité femmes-hommes. Pour rappel, l'écriture inclusive consiste à inclure les femmes et les hommes dans notre langage en s'adressant par exemple aux auditeurs et aux auditrices ou au public. Un mot neutre, la règle du masculin l'emporte sur le féminin est bannie. En faveur de la règle de proximité qui veut que les auditeurs et les auditrices sont attentifs à ce sujet. Bref, c'est un langage égalitaire qui redonne leur place aux femmes.
Et puis, hasard du calendrier, Fiona, l'Académie française se penchait aujourd'hui sur la question de la féminisation des noms de métiers.
Et la décision est tombée il y a quelques minutes. La féminisation des noms de métiers vient d'être adoptée à une large majorité par l'Académie française qui ne voit aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers et de professions. Une décision logique pour la linguiste Eliane Viennot, autrice notamment de l'Académie contre la langue française. Le dossier féminisation, décision logique compte tenu de l'évolution de la langue française.
Alors en fait, la langue française, elle a évolué. Elle n'attend pas l'Académie. Hein. Le combat qu'ils ont mené contre l'usage des mots féminins, des termes féminins pour les fonctions prestigieuses, parce qu'il n'y a que pour celles-ci qu'ils se sont jamais bagarrés, ils ne le font plus. Ils vont plus s'opposer à cet usage comme ils l'ont fait depuis toujours.
Opposition qui durait depuis le XVIIe siècle, dès la naissance de l'Académie française, alors que le mot « autrice » était d'usage. L'Académie qui précise qu'elle ne dressera pas de liste exhaustive des noms de métiers et laissera aux pratiques le soin de trancher.
Merci Fiona Mogadam. Le ministre de la Culture, Franck Riester, est à Milan aujourd'hui où il a rencontré son homologue italien Alberto Bonisoli. Parmi les sujets évoqués, il y a la grande exposition Léonard de Vinci, prévue à l'automne au musée du Louvre. L'Italie doit prêter à la France des œuvres de Vinci pour cette exposition. Ce sont en tout cas les termes de l'accord conclu par le précédent gouvernement italien de centre-gauche, avant donc l'arrivée au pouvoir à Rome des populistes. Bonsoir Cécile de Kervazoué.
Bonsoir.
La question du prêt à la France des œuvres de Léonard de Vinci divise en fait le gouvernement italien.
Oui, d'autant qu'il faut le préciser, hein, pour les prêts d'œuvres d'art, il n'y a pas d'accord écrit avant le tout dernier moment. Alors c'était lors d'un sommet franco-italien de septembre 2017 que les deux pays s'étaient donc oralement accordés. La France avait proposé de monter une exposition sur Léonard le peintre à l'automne 2019 grâce à sa collection du Louvre, la plus importante du monde, auquel viendrait s'ajouter des tableaux de 4 musées italiens. En échange, elle promettait de prêter à l'Italie des dessins de Vinci cette année et des Raphaël pour l'année prochaine. Mais effectivement, le changement de gouvernement en Italie, avec une coalition d'extrême droite et d'antisystème au pouvoir qui s'oppose en permanence dans les urnes, remet en question cet accord. Aujourd'hui, le ministre de la Culture italien, qui est 5 étoiles, semble vouloir rétropédaler après les déclarations à l'automne de sa sous-secrétaire d'État à la Culture, qui est, elle, membre de la Ligue. Bref, les deux ministres français et italien ont promis aujourd'hui de travailler main dans la main afin de trouver les modalités d'échange des Vinci et des Raphaël en accord avec les musées.
Cécile de Kervas-Douai, merci. On termine ce journal avec le temps. Demain, il sera pluvieux, surtout dans l'Est. La neige fait son retour en montagne. Seules les régions méditerranéennes garderont un temps ensoleillé. Température minimale de 4 à 11 degrés. Les maximales très contrastées iront de 10 à 23 degrés du nord à la Provence. C'est la fin de ce journal sur France Culture à 18h20. Un journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.